Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, double dose pour le congé paternité.
Bientôt un mois au lieu de deux semaines, la France devient l'un des pays les plus généreux. Dans l'actualité également, la perte du goût et de l'odorat, symptôme plutôt bénin du coronavirus, dit une étude ce matin. Et puis le paiement sans contact qui se généralise, le nombre de transactions a été multiplié par 5 en 3 ans.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Mais tout d'abord, ce générique que les moins de 20 ans n'ont sans doute jamais entendu. Vous avez reconnu le générique de Gym Tonic.
Oui.
Véronique et Davina, dans la télé des années 80, faisaient du sport le dimanche matin. Leggings fluo et bandeaux en triste anti-transpiration de rigueur. Ça paraît bien loin en cette journée du sport scolaire. Le constat est édifiant. Écoutez bien, les jeunes ne bougent plus. En 50 ans, les ados ont perdu 25% de leur capacité physique. Pascal Canu est prof de sport dans un lycée du Val-de-Marne.
Où on voit du recul, c'est sur le travail en gymnastique. Les élèves ont du mal à faire une petite galipette, une petite roulade, à mettre la tête en bas, pour eux c'est compliqué. Ce sont des situations qu'ils n'ont pas vécues quand ils étaient petits. Ils n'ont pas de marqueur culturel sportif. Ils ont tous, entre guillemets, flemme. Moi j'ai la flemme de ci, la flemme de là. Pour eux, le rapport au corps est difficile, et le rapport à l'effort aussi est très difficile. Dès qu'ils courent un peu trop, qu'ils ont un petit peu les sensations d'essoufflement, des sensations de gorge sèche, tout ça ils connaissent pas et ça leur fait peur. Et il faut qu'on aille dans l'explication, dans la gestion, dans la pédagogie par rapport à tout ça.
Pascal Canu, prof de PS au lycée Guillaume Budet de Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne, au micro d'Isabelle Langer. Ce n'est pas anecdotique hein, parce que pour les spécialistes de la santé, c'est une bombe à retardement. Les médecins commencent à avoir des diabétiques de 14-15 ans, alors que c'était une maladie qui n'arrivait pas avant 40 ans.
8h02, les jeunes papas auront bientôt un mois pour faire des papouilles.
La durée du congé paternité va doubler dès l'an prochain, elle va passer de 14 à 28 jours. Concrètement, 25 jours pris en charge par la Sécu, plus 3 payés par l'entreprise. Et une partie, bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Une partie, on ne sait pas encore quelle durée exactement, sera obligatoire. La France était un peu à la traîne hein, par rapport à ses voisins européens, mais ça va changer.
Oui, la France rejoint le podium des 5 fantastiques du congé paternité en Europe, que sont l'Espagne, la Suède, la Finlande, la Norvège et le Portugal. Chez nos voisins espagnols, le congé paternité de 3 mois s'apprête à s'étirer pour atteindre 4 mois indemnisés à 100%, c'est un peu le même principe en Norvège. Indemnisation à 100%, pas de perte de salaire pour les pères qui prennent ce que les Norvégiens appellent le quota paternel, congé d'une durée d'un peu moins de 4 mois. En fait, globalement, les pays du nord de l'Europe sont très généreux en matière de congé de naissance. La Finlande accordera bientôt 6 mois et demi de congé paternité. En Suède, les parents peuvent carrément prendre jusqu'à 1 an et 4 mois de congé indemnisé à se répartir entre le père et la mère. Enfin, au Portugal, comptez 1 mois de congé paternité, dont une partie obligatoire. Une obligation d'arrêt, c'est aussi le dispositif que la France donc s'apprête à mettre en place.
Merci beaucoup pour ces précisions, Anaïs Bouissou. Dans l'actualité également, cet homme de 31 ans qui sera présenté tout à l'heure à un juge à Angers. Il est soupçonné d'avoir violé une fillette dimanche dans la Vienne. Elle avait réussi à s'échapper. Il aurait fait d'autres victimes. Le suspect n'est pas un inconnu. Il cumule pas moins de 18 condamnations. Le procureur de la République de Poitiers, Michel Garandeau.
Pour des faits très diversifiés, du vol aux violences en passant par le trafic de stupéfiants. Mais il n'a jamais fait l'objet à ce jour de condamnation pour des faits de viol ou d'agression sexuelle. Par contre, deux enquêtes sont ouvertes le concernant pour des faits d'agression sexuelle qui sont en cours d'enquête par les services de police ou de gendarmerie.
Propos recueillis par Christian Panvert. Une centaine de médias dont RTL appelle ce matin dans une lettre ouverte les Français à se mobiliser pour la liberté d'expression. Alors que Charlie Hebdo est visé par de nouvelles menaces en plein procès. On en parlait hier dans ce journal. La DRH de Charlie a dû quitter précipitamment son domicile pour se mettre à l'abri. Un homme torturé à mort. Son corps a été retrouvé hier en fin d'après-midi dans un appartement du 19e arrondissement à Paris. C'est un voisin qui a donné l'alerte après avoir entendu des cris.
8h04 après Marseille, Lyon et Nice notamment. Hein. De nouvelles mesures attendues cette fois à Paris pour freiner l'épidémie.
Elles seront prises lors d'un conseil de défense alors que le virus progresse toujours. On est à un peu plus de 10 000 nouveaux cas chaque jour. Et on apprend ce matin, bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
On apprend que l'un des symptômes les plus répandus, à savoir la perte du goût et de l'odorat, serait un symptôme plutôt rassurant.
Oui, c'est en tout cas la conclusion de médecins et de chercheurs de l'hôpital Foch à Suresnes, près de Paris, et de l'université de Mons en Belgique. Ils ont divisé 1300 malades en 4 groupes, du moins grave au plus grave. Dans les cas les plus bénins, 70 à 85% ont perdu l'odorat, mais seulement 15% chez ceux qui ont besoin d'oxygène. Tous sont passés une IRM qui montre que le bulbe olfactif qui est situé à la base du cerveau est touché. Grâce à des traitements à base de corticoïdes, le virus semble alors contenu dans le système immunitaire sans se propager dans les poumons avec à la clé de grosses difficultés respiratoires. Voilà donc de bonnes nouvelles. Si vous ne sentez plus votre parfum, si ce que vous mangez a le goût de papier et que vous êtes Covid+, dans l'immense majorité des cas, vous guérirez tout seul chez vous sans développer de forme grave de la maladie.
Merci beaucoup Sophie Ranche. On en apprend un peu plus chaque jour sur ce virus. Avec les gestes barrières, le paiement sans contact, vous l'avez sans doute remarqué, se généralise. Il représente aujourd'hui 93% de l'activité des commerces de proximité. Il y avait 1 milliard de transactions sans contact en 2017 en France. On devrait dépasser les 5 milliards cette année. Frédéric Perruche l'a vérifié pour nous à Lyon.
Le son caractéristique du paiement sans contact, en une seconde, la note est réglée, les clients apprécient.
C'est pratique, on pose le téléphone, enfin moi je paye avec le téléphone, on le pose, c'est payé et on repart. On n'a pas besoin de s'encombrer avec de la monnaie, avec une carte bleue qu'on peut perdre ou ça.
Dès que je peux, même quand je vais au bar ou quoi que ce soit, je paye en sans contact, beaucoup plus rapide. Et puis en plus en ce moment avec le Covid, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus hygiénique. Voilà.
Parce que maintenant c'est plus facile que de faire le code et tout, c'est la facilité hein.
Par rapport au virus, c'est évident que ça minimise les manipulations. Et ce qui est le plus important, c'est d'éviter le contact physique avec les mains.
Dans cette supérette du centre-ville, ce mode de paiement est devenu quasiment la règle, et même pour les petites sommes, explique Hugo, le gérant.
Bah en fait, c'est plus rapide. Les gens, ils arrivent, ils prennent une bouteille d'eau en 1 euro, hop, sans contact, ils repartent, quoi. Le liquide, il y a un échange de monnaie, il y a un peu plus de temps. Moi, je vois le midi, les 3/4 des gens, ils utilisent le sans contact. Pour acheter leur sandwich, c'est sans contact.
Et quel que soit le commerce, de la boulangerie au magasin de vêtements, le sans contact est aujourd'hui incontournable.
C'est pratiquement tout le temps. C'est à peu près 70 à 80% de la clientèle qui paye en sans contact. C'est un moyen de paiement très efficace.
Et tous les publics sont concernés. Les retraités s'y sont mis massivement, constatent les commerçants.
Reportage à Lyon, signé Frédéric Perruche.
Et dans un instant, Jérôme, la grande jungle des vélos en ville.
Benoît, vous n'êtes pas arrêté au feu rouge, là?
Lequel?
Juste derrière vous. Benoît, voilà, pourquoi?
Pourquoi? Bah, parce que en fait, c'est fatigant le vélo et il faut toujours s'arrêter, démarrer.
Oui, c'est fatigant, on va en reparler dans un instant.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Alors, à Paris, à vélo, on dépasse les autos, chantait Jodassin. On pourrait ajouter, aujourd'hui, on crée aussi beaucoup de bobos.
Des bobos qui font mal, hein, pas oui. Des bourgeois bohèmes. Oh, quoique, c'est l'une des conséquences de la crise sanitaire. Beaucoup de Parisiens ont délaissé les transports en commun au profit des deux roues. Et la cohabitation avec les voitures et les piétons devient de plus en plus difficile. Les déplacements à vélo ont bondi de près de 70% en un an dans la capitale. Les accidents aussi sont plus nombreux, une hausse de 30%. Vincent Serrano, vous avez pris votre courage à deux mains en vous rendant en pleine heure de pointe sur le boulevard Sébastopol.
Oh non.
Oui, qui voit défiler tous les jours 18 000 vélos, 27 cyclistes se croisent ici toutes les minutes, ce qui donne lieu à beaucoup de tensions. Votre prénom ?
Charlotte.
Il vient de se passer quoi, Charlotte, avec le vélo ?
Il vient de se passer, comme tous les matins depuis que j'emmène mon fils à l'école, il ne respecte pas les feux. Donc on est obligé carrément de se mettre sous leur roue pour qu'ils nous laissent passer.
Je me sens en limite en colère.
Il faut que l'un d'eux s'arrête pour que les autres derrière s'arrêtent. Donc c'est vraiment très très pénible. La cohabitation est compliquée à cet endroit-là.
Juste là, pardon.
Pardon ?
Juste là.
Ton prénom ?
Arthur.
Arthur, t'en penses quoi, toi ? C'est dangereux aussi ?
Oui, vendredi dernier, on a failli se faire écraser par un vélo qui passait. Bah, faudrait peut-être mettre des feux pour les cyclistes, qui est déjà le cas, mais bon, ils les respectent même pas, donc...
Une autre maman à côté, vous voulez dire quelque chose ?
Ils arrivent à gauche, ils arrivent à droite, c'est hyper dangereux.
Votre prénom ?
Benoît.
Benoît, vous n'êtes pas arrêté au feu rouge, là ?
Lequel ?
Juste derrière vous. Benoît, voilà, pourquoi ?
Pourquoi ? Bah parce que en fait c'est fatigant le vélo et il faut toujours s'arrêter et démarrer. En fait c'est un peu la survie donc on fait ce qu'on peut quoi. Ouais bah regardez les bagnoles, enfin tous les jours moi j'ai un problème avec une voiture. Elle vous coupe le chemin, bah c'est mal foutu ouais.
Je vous donne un chiffre Benoît, il y a 4 personnes qui sont mortes depuis le début de l'année à Paris à vélo.
Ouais c'est pas étonnant, je veux dire il y a tellement de... Je sais que ma femme a arrêté d'en faire parce qu'elle me flippait beaucoup trop.
Alors pour améliorer la situation et réduire ces incivilités, il faudrait plus de contrôle feu rouge, une meilleure signalisation ici sur le boulevard Sébastopol et ailleurs dans Paris et surtout un élargissement des pistes cyclables. Tout ça, la mairie de Paris tente de le mettre en place, mais pas avant plusieurs mois.
Merci beaucoup, reportage signé Vincent Serrano. Vélo toujours et ses soupçons de dopage sur le Tour de France. Les gardes à vue se poursuivaient hier soir pour ce médecin et ce kiné de l'équipe Arkea Samsic, visé par des soupçons de dopage. La star de cette équipe, Nairo Jairo Quintana se défend, il n'a rien à cacher. J'ai été pendant toute ma vie sportive un coureur propre, dit-il dans un communiqué. Garde à vue également pour le patron du rugby français, Bernard Laporte, soupçonné de trafic d'influence en faveur de l'homme d'affaires Mohamed Altrad, propriétaire du club de Montpellier et sponsor des Bleus. Bernard Laporte dénonce une déstabilisation alors qu'il s'apprête à briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération française de rugby.
Et nous terminons le journal avec l'histoire du jour.
On est bien peu de choses. Hein. L'avion du vice-président américain Mike Pence a dû faire demi-tour après avoir été percuté par un oiseau. On ne sait pas si c'est de mauvais augure à 40 jours de la présidentielle. Air Force Two venait de décoller du New Hampshire, retour à la case départ. Mike Pence se porte bien, mais on n'a aucune nouvelle du volatile.
Ah ben oui, parce qu'on s'inquiétait pour le volatile en question. Ben écoutez, nous verrons ça dans une...